Bonjour à tous, bienvenue dans Handball Podcast, le podcast du handball. Je suis Tristan Paloc, cofondateur de Data CT Match, agence de conseil en data pour les acteurs du handball. Retrouvez-nous et suivez-nous sur Twitter, les liens sont en description. Avec Handball Podcast, nous voulons simplement produire un contenu podcast régulier et de qualité pour les amoureux du handball. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Handball Podcast. On est ravis de vous retrouver, chers auditeurs, pour un épisode assez exceptionnel, même si je dis ça plus ou moins chaque semaine. Mais là, vous allez voir, on a un invité qui sort du lot. Bon, avant de le présenter, je salue mon fidèle collègue et compagnon Kader Rahim. Salut Kader.
Salut Tristan, bonjour à toutes et à tous.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, très bien, très bien. Content du dernier épisode avec Melvin Richardson, qu'on vous invite à aller écouter et à repartager. Et voilà, très content et excité de recevoir aujourd'hui l'invité exceptionnel, comme tu disais.
Parce qu'aujourd'hui, on a un invité qui est très proche des terrains, mais qui n'est plus sur les terrains. Bon, j'arrête de faire cette présentation. On reçoit aujourd'hui le président du HBC Nantes, Gaël Pelletier. Bonjour Gaël.
Bonjour à vous, merci de tous ces compliments.
Bonjour président.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment super content avec Kader de pouvoir recevoir en fait le président du club qui vient de gagner la Coupe de France. Félicitations.
Merci, c'est gentil. C'était un beau combat, mais finalement un combat qui avait commencé 15 jours avant avec la réception de Paris sur le match de championnat.
Et oui, vous venez d'enchaîner deux victoires d'affilée face à Paris. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé dans votre histoire, mais la deuxième a quand même été assez cinglante.
Oui, alors ça n'est jamais arrivé. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui aient battu Paris dans sa formule qatari, si on peut s'exprimer ainsi, deux fois d'affilée. Ça doit pas être commun quand même.
Bah oui, on peut d'autant plus vous féliciter. Président, je vais présenter l'épisode à nos auditeurs, mais l'idée c'est qu'on fasse quelques rapides questions sur l'actualité chaude du H et de vous par la même occasion. Mais l'idée c'est d'avoir un épisode un peu intemporel, on va dire, et on va surtout vous poser beaucoup de questions sur le club, sur comment vous avez vécu son développement, des questions un peu historiques, des petites anecdotes éventuellement, et puis voilà votre avis sur l'organisation, si vous avez des conseils à donner à des jeunes dirigeants qui rêveraient de se lancer. C'est bon pour vous ?
C'est parfait.
Parfait. Bon, écoutez, Kader, tu veux poser la question d'un peu d'actualité sur les résultats brillants du H,
même si ouais, je veux bien commencer. Après,
je me compléter, président, je suis supporter montpellierain, donc
bon. Il n'y a pas de souci, nul n'est parfait.
Non, mais déjà, je suis très content et je voulais remercier le président du HBC Nantes d'accepter parce que voilà, je sais que c'est quelqu'un qui s'exprime pas forcément beaucoup. C'est vraiment une exclusivité de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Et souvent il s'exprime peu, mais il s'exprime très bien quand on l'a dans des articles ou des interviews. Donc déjà très content de le recevoir. Moi, ma première question, elle est toute simple. Président, voilà, vous venez de remporter une belle Coupe de France. Quel est votre sentiment après cette belle victoire et cette belle fête à Bercy ?
Je crois que comme tout président, assez souvent on pense au lendemain. Et c'est vrai que cette année, la Coupe de France, elle était positionnée alors pour cause de jeu, et on comprend aisément, mais elle était positionnée à un endroit qui est un peu complexe, puisque c'est quelques jours avant notre match à Berlin, match important puisque c'est le quart de finale de l'European League, et que on a très très envie de regoûter un Final Four. Donc c'était un positionnement un petit peu compliqué. Maintenant, on a pris la soirée pour profiter de la réussite du club et de la réussite du joueur. Je dis du club parce que les supporters nous ont accompagnés en nombre. On a de très belles images en tête, de beaux moments de joie partagée. Donc mais On est obligé par la temporalité et par le positionnement cette année de penser à demain.
Je suis embêté, je suis obligé de rebondir déjà sur ce que vous avez dit parce que l'an dernier, j'étais à Bercy et j'ai subi ce mur violet. Je commentais pour France Bleu Hérault et j'étais en face du mur violet. Et cette année, j'ai vu ça à la télé, j'ai l'impression que le mur avait encore grandi. Comment vous faites enfin, j'ai l'impression que vos supporters ne se lassent pas, qu'ils sont toujours à fond. Comment vous faites pour capitaliser là-dessus et qu'est-ce que ça vous fait ressentir aussi d'avoir un peuple comme ça qui vous soutient?
On le vit un peu comme une réussite parce que dès le départ du projet, on a considéré que un club n'avait de raison d'être qu'à partir du moment où il y en avait une adhésion derrière lui et une adhésion populaire. Ça a toujours été notre créneau et ça, on était en N3 qu'on pensait déjà cela. Bien évidemment, il y avait beaucoup moins de monde à nous suivre, mais on était déjà dans cette démarche. Donc de voir aujourd'hui que les gens répondent présents, c'est forcément une grande satisfaction, mais au-delà du nombre, ce qui nous plaît, c'est l'ambiance qu'il y a dans ce collectif de supporters, une ambiance familiale, bon enfant, très sportif dans la mentalité, et on se dit que c'est une réussite, et c'est le type de public qu'on veut, nous, dans les salles, et qu'on est fier d'avoir, au HBC Nantes.
Moi, je rebondis là-dessus, Tristan, mais je vais faire une petite confession. Mais j'ai joué à Dunkerque, j'ai joué à Nîmes où il y avait également des beaux publics. Mais en tant que joueur, d'aller jouer à la AH Arena, à Beaulieu, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'ambiance, de voir cette salle pleine à chaque match, de voir des tifos réalisés qui sont incroyables match après match. En tant que joueur, l'expérience que je vivais en tant que joueur, la plus belle, c'était d'aller jouer à Nantes. Je revenais très peu avec des points, mais je passais une belle soirée sur les terrains en tout cas.
Après, notre travail à nous, c'est d'essayer effectivement de rendre cela joli et de le scénariser un petit peu. Si on reprend l'exemple de la Coupe de France, par exemple, on avait distribué 2000 t-shirts, on avait distribué des drapeaux. Donc forcément, après, ça donne aussi de belles images et ces belles images sont notre meilleure publicité pour qu'il y ait une adhésion encore plus grande et encore plus forte.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est bien pensé en tout cas. Moi, président, je voulais vous poser une question sur un peu le chemin parcouru par le club depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. J'ai un souvenir, en 2008, j'étais à Nancy. À ce moment-là, Nantes était en Pro D2 et jouait l'accession en LNH. Aujourd'hui, en 2024, c'est l'un des plus grands clubs français et l'un des tout plus grands clubs européens également. Comment vous réalisez un peu ce chemin parcouru depuis ces 15 dernières années?
Alors, dans la réalité, c'est un parcours de 25 ans parce qu'il y a eu 10 ans avant de dirigeants
J'étais trop jeune.
qui nous ont amenés à. Et dans votre introductif, vous disiez, est-ce que je pourrais avoir des conseils à donner? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'être patient parce que voilà, c'est un quart de siècle pour en arriver là, un quart de siècle de travail. Et forcément, il y a plein de belles images et des périodes compliquées, des périodes plus simples. Mais oui, on est content de l'avoir fait et on est content qu'il y ait toujours cette même volonté et ces mêmes valeurs avec des gens qui viennent s'additionner en compétences, mais les gens restent aussi au sein du HBC Nantes. Et ça, c'est vraiment l'esprit que l'on souhaite. C'est ce qu'on définit comme la H Family, mais c'est juste un vocable, mais néanmoins, c'est aussi une réalité et la réalité des valeurs qu'on veut au sein de ce club.
Pour repartir sur l'actualité, après, parce que là, en fait, nous, on est très vite parti sur la construction du club, mais parce que c'est le sujet qui nous passionne avec Kader et je pense qu'il passionnera tous nos auditeurs et notamment les supporters nantais. J'avais une dernière question. Vous disiez que en tant que président, vous pensiez toujours un peu au lendemain. Le titre en Coupe de France a été une super fête. Est-ce que vous avez une petite crainte que cette super fête et ce premier titre parasitent un petit peu la fin de saison ou vous avez l'impression que globalement l'effectif avec l'objectif de Coupe d'Europe et puis à minima la deuxième place en championnat, l'effectif va être capable de tenir le choc jusqu'au bout?
L'effectif, il est ambitieux et il est gourmand. Il est gourmand de titres. Maintenant, c'est là aussi qu'on va voir si on a progressé, parce que la problématique du HBC Nantes aujourd'hui, c'est un peu sa régularité. Sur les gros matchs, il est capable d'être là. Mais c'est vrai que des fois, il a quelques petites sorties de route contre des équipes qui sont, entre guillemets, réputées plus faibles. Donc finalement, là, ça va être un bon moyen de se rendre compte de ce qu'il en est. Je serais tenté de dire, et là, on est à quelques heures du match, et peut-être, et j'ose espérer que ça me fera pas, que le match me fera pas mentir. Je pense que l'équipe sera très attentive contre Berlin parce que Berlin a une très grande notoriété. Ils sont aujourd'hui premier ex aequo, je pense, du championnat d'Allemagne. Donc ils sont, voilà. Je pense que l'équipe va pas manquer de vigilance et va attaquer ce match de manière très sérieuse. Après, entre les deux matchs contre Berlin, il y aura le match à Limoges et c'est
Le
là que
match
je
piège,
redoute un.
le match piège.
Voilà, tout à fait. Limoges qui nous prend des points tous les ans d'ailleurs et qui l'a fait à la Charrena cette année puisqu'ils nous ont pris un point. Ils auraient même mérité d'en prendre deux sur la physionomie du match. On a réussi à sauver les meubles, mais ils auraient bien mérité d'en prendre deux quand même. Et c'est là qu'il va falloir effectivement se méfier parce que ce match peut sembler plus facile, mais il sera aussi très important. Par rapport à la qualification en Ligue des Champions, parce que quand on y a goûté, on veut la regoûter. Et puis, actuellement, on est dans une alternance avec Montpellier. Quand on la joue, on n'arrive pas à se requalifier. Et il en est de même pour Montpellier. Et ben, j'espère qu'on va faire respecter cette alternance cette année, avec un Montpellier qui tourne bien malgré cet enchaînement de compétitions qu'ils ont et de gros matchs qu'ils ont.
Moi, je suis complètement d'accord avec le président. C'est que je pense que cette équipe a soif de titres. Tu sors d'une finale à Bercy où tu fais un grand match, tu remportes un titre. C'est vrai, il y a le moment de fête, etc. Mais ces mecs-là, c'est des gros compétiteurs. Ils ont déjà hâte d'être ce soir pour en découdre face au leader de la Bundesliga. Et il y aura surtout ce match à Limoges. Et je pense que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui à Nantes pour aller chercher le titre. C'est que Nantes rivalise avec les gros, etc. Mais laisse toujours 1, 2, 3 points en route sur la saison. Et c'est ce qui fait la force de Paris. Paris, ces matchs-là, ils les perdent jamais. Ils perdent jamais de points en route. Et je pense que c'est juste cette petite bascule qui fera peut-être aller chercher un titre de champion, un champion à Nantes dans les saisons à venir.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ce sur quoi il nous faut travailler aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi le plus compliqué. Mais c'est là aussi qu'il faut de l'expérience, que l'expérience d'un club est importante. Et je dis bien d'un club, pas nécessairement que de joueurs, parce que c'est un environnement, c'est de l'impalpable. Mais quand on est joueur dans un club qui a beaucoup gagné, je pense qu'on est assez rapidement investi et beaucoup plus investi quand on va dans un club qui est en construction et je nous considère comme étant toujours en construction.
Ça veut dire que quand vous parliez de patience tout à l'heure, si vous deviez donner des petits conseils aux dirigeants, vous avez parlé de patience. L'idée, c'est de bâtir, allez, je vais utiliser un terme qu'on utilise beaucoup, mais une institution, parce qu'on vient d'avoir Melvin Richardson qui nous a parlé des sensations qu'il avait eues quand il avait mis pour la première fois le maillot du Barça. Vous, dans votre idée du temps long, c'est aussi de créer un peu cet environnement-là au H.
Oui, eh ben, je crois que Melvin a parfaitement résumé la chose. Quand on va dans un club, la valeur maillot et de ce qu'il représente nous investit de quelque chose. Et c'est ça qu'il faut créer. Et ça prend du temps. Et c'est ce sur quoi on essaye de travailler. Mais oui, il faut nécessairement laisser le temps au temps. Et c'est pas la chose la plus simple à faire, déjà d'être patient, surtout quand on est dirigeant, on voudrait tout tout de suite, mais bon, les échecs nous apprennent la patience aussi parfois.
Mais Tristan, tu sais, le fait d'être un club, d'être une institution, aujourd'hui, Nantes commence à vraiment rentrer dans cette sphère-là, j'ai l'impression. Il y a 10 ans, on te proposait d'aller jouer à Nantes, c'était pas forcément quelque chose qui attirait beaucoup de monde. Aujourd'hui, de proposer à un joueur de signer au HBC Nantes, je pense qu'il y en a une bonne partie qui iront en courant. Donc je pense qu'ils sont en train de construire de façon très intelligente leur projet, que ça avance vraiment bien. Et comme le disait le président, le fait de gagner des titres, d'arriver dans un club qui a déjà des titres, des trophées, ben le poids du maillot se fait ressentir. Et je pense que Nantes se dirige vraiment vers ça. Et c'est un peu dur pour toi, Tristan, de l'entendre, mais je pense que Nantes a passé la seconde et a mis Montpellier loin derrière par rapport à
Et
ça, je
voilà,
trouve.
tout de suite une attaque personnelle.
Non,
Non, mais c'est pour ça, on va rebondir un peu du coup
mais
sur la.
Montpellier reste un exemple. Hein. Montpellier
Ah,
reste
bien
un
sûr,
exemple
non, je.
dans la durée, dans tout ce qu'ils ont, dans tout ce qu'ils ont réalisé. Bien évidemment qu'on cherche à les mettre derrière nous, mais comme on cherche à mettre derrière nous toutes les équipes. Mais Montpellier reste un exemple de par tout le travail qu'a réalisé Patrice Canaille. Ça, c'est évident.
Ça, j'en suis complètement d'accord. Mais on
On
va
parle.
basculer un peu sur la partie plutôt club,
Ouais, on
Tristan,
parle un peu
si,
Ligue des
si...
Champions, Kader.
Voilà.
Ouais,
Je voulais
vas-y.
vous poser un peu la question, Président. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait d'alterner entre le HF, la Ligue des Champions, une année sur l'autre, pour vous, l'importance de jouer la Champions League chaque année, et économiquement, Monsieur le Président, comment ça se passe les saisons sans Ligue des Champions? Le club en souffre quand même ou il n'y a pas forcément de différence sur cet aspect-là entre la Champions League et le HF?
Alors, moi, j'ai toujours eu une démarche assez prudentielle dans mes budgets. Donc, le fait qu'on ne la fasse pas ne pénalise pas le club, enfin, ne le pénalise pas dans le sens où ça ne le met pas en difficulté financièrement. Ça le pénalise parce que, pour être très franc avec vous, c'est de l'ordre d'un demi-million, la différence de recettes. Mais voilà, ça ne nous pénalise pas dans le projet. Maintenant, ça nous pénalise parce qu'on gagne un petit peu moins d'argent.
Vous avez dit que donc là vous avez on enregistre en fait pour vous chers auditeurs, on enregistre l'après-midi, enfin ce soir il y a Berlin-Nantes. Et donc entre vous avez parlé du match de Limoges entre les deux confrontations face à Berlin. Enfin, je trouve qu'en termes de storytelling, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que dans quoi vous êtes très bon, Wash, en termes de storytelling, le fait que chaque match soit très important, ça c'est intéressant. Mais est-ce que le fait d'avoir un match aussi important contre Limoges, à ce moment-là de la saison, ça vous pénalise pas et peut-être, je sais pas, un changement du format du championnat vous aiderait pour performer au niveau européen? J'ai été très long.
Alors, non, non, mais alors ça nous pénalise, oui, mais en même temps, ce sont de bons problèmes. Je veux dire, si on n'était pas qualifié en quart de finale, on n'aurait pas le problème. Donc, c'est aussi parce qu'on a une réussite qu'on se retrouve à avoir finalement ce problème, si tant est que ça en soit un. D'une, c'est le prix à payer pour la réussite. Et puis après, bah, il faut changer la formule. Pourquoi pas? Mais si on doit changer la formule, il faut la faire pour de bonnes raisons. Et les raisons qui vont consister à constamment être dans la démarche de protéger les clubs européens ne sont pas nécessairement des bonnes raisons.
Je suis
Parce
d'accord.
qu'il faut aussi qu'il y ait un vrai championnat. Il faut aussi que les clubs qui ne font pas de Coupe d'Europe aient la capacité à développer leurs produits, leurs compétitions, leurs matchs. Et que si on fait tout en direction des clubs européens, eh ben, on va se retrouver dans la difficulté parce que le championnat, bah, économiquement, il sera en grande difficulté. Donc, il faut réussir à faire les deux, je pense. Bien évidemment qu'on demande, nous, quand on joue les Coupes d'Europe, à ce que les championnats ne soient pas trop complexes pour nous. Mais on sait aussi que bah, c'est le prix à payer, il faut de fait les effectifs pour, et ainsi de suite. On peut changer les formules, mais pour des bonnes raisons. Et celles-ci, si elles ne visent qu'à nous protéger, nous, clubs européens, je pense que c'est peut-être un peu court comme motif.
Non, mais même en termes d'intérêt, enfin, vous voyez, quand moi je vois Nantes débarquer à Bercy pour une finale de Coupe de France, je me dis si on avait un système du style de celui du top 14, avec, enfin, vous voyez, j'imagine un Nantes-Montpellier peut-être en aller-retour en demi-finale pour accéder à la finale, là c'est vous l'expert en termes de raconter des belles histoires, etc., mais ça pourrait être fou. Plutôt que d'avoir un Montpellier-Nantes en septembre et en mai, sachant que peut-être qu'en fait le championnat est déjà joué.
Oui, bah, c'est certain que les matchs, les doubles confrontations ont aussi de l'intérêt, sous réserve qu'elles soient équilibrées et qu'il puisse y avoir des revirements de situation. Il peut aussi y avoir des histoires sympathiques qui s'écrivent à travers ça. Mais bon, je sais pas, je sais pas. Nous, ce qu'on, je sais, c'est que nos économies à nous, club, elles s'appuient aussi sur le nombre de matchs qu'on réalise. Les joueurs estiment qu'il y en a toujours trop, parce que ça crée de la fatigue, ça peut générer des blessures. Mais en même temps, quand vous demandez à un joueur de pas jouer un match pour se reposer, je pense qu'il n'est pas
Il va
content.
râler.
Donc, les joueurs voudraient moins de matchs, mais dès qu'il y a un match, ils veulent le jouer.
Je confirme. Moi, président, je voulais un peu avoir votre avis sur la Ligue nationale de handball, sur la LNH. Vous avez le droit de dire Joker, hein. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais un peu votre avis sur le modèle actuel de la LNH. Est-ce que la LNH, elle apporte un peu tout ce qu'elle peut, ou pour vous, vous pensez qu'on doit viser un autre modèle?
Alors, est-ce qu'elle apporte tout ce qu'elle peut? La réponse est clairement oui. Après, est-ce que c'est suffisant? La réponse est clairement non.
Non.
Mais oui, on rêve d'une LNH un petit peu plus proactive, qui se développe plus, qui vend mieux le produit. Après, c'est aisé de le dire, c'est peut-être très compliqué de le faire. Et ça, je peux le concevoir. Moi, je suis pas aux affaires de la LNH et j'ai pas forcément conscience de toutes les difficultés qui sont les leurs. Mais c'est vrai que le handball, si on le décrit comme un produit, c'est quand même un beau produit et je pense qu'il peut mériter une médiatisation plus forte qui aiderait beaucoup plus l'intégralité des clubs si on y arrivait. Donc, après. Donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faut pas faire, bah, c'est même pas, j'allais dire c'est aisé, mais en fait non, c'est même pas si aisé que ça. Et très certainement que c'est compliqué. Oui, ils font leur maximum, mais ce
Mais on peut
maximum
mieux faire.
aujourd'hui
On peut mieux faire, je pense.
reste insuffisant. Même si c'est le maximum, ça reste insuffisant. Donc après, bah oui, il faut trouver d'autres modèles, peut-être aussi d'autres présidents. Des présidents bah, plus impliqués dans un développement économique, des présidents qui n'ont pas nécessairement une double casquette qui est toujours un petit peu, enfin, qui va poser des questions entre guillemets,
Ah, je comprends.
parce qu'on peut pas tantôt endosser un habit en oubliant l'autre, c'est pas possible. Donc, voilà, même si très certainement on y met de l'intégrité. Néanmoins, ça peut toujours poser question par rapport à des problématiques. Et puis, je pense que c'est une fonction se suffit à elle-même. Et qu'avoir deux fonctions une fonction de président de club plus une fonction de président de ligue professionnelle, bah, on n'est pas à 100% des deux côtés.
Oui, c'est sûr,
Impossible.
c'est sûr. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de poser la question au chef d'entreprise, à l'homme qui a bâti le H et qui l'en a rendu aujourd'hui l'un des tout meilleurs clubs en France et européen. Mais pour vous, qu'est-ce qui manque à notre ligue aujourd'hui pour qu'elle soit meilleure, qu'elle soit encore plus attractive? Imaginons que demain vous êtes vous à la tête de la LNH, mais qu'est-ce que vous feriez pour améliorer un peu notre championnat?
Alors déjà, m'imaginer à la tête de la LNH, c'est une fiction. Et ça
Je
restera
sais, je sais.
toujours
N'arrivera
une
jamais.
fiction. Après, est-ce que je serai la bonne personne? Je ne le pense pas non plus. Parce que ma motivation, elle est liée à mon club et pas nécessairement à l'institution. L'institution, elle est là pour être facilitante et pour assurer le développement. Moi, j'ai un petit peu besoin du moteur sportif pour avancer et d'éléments que l'on peut juger par les résultats, quoi. On sait quand on a bien travaillé, quand on est président d'un club de handball. C'est plus compliqué quand on est président d'une LNH. Quoique, peut-être qu'on peut trouver aussi des motifs de satisfaction en ayant remporté un contrat ou des droits télé. Chose qu'on fait insuffisamment aujourd'hui. Mais encore une fois, je le redis, quand je dis ça, c'est pas nécessairement dire que c'est mal fait et peut-être qu'il y a des difficultés dont j'ai pas conscience. Mais notre produit est beau et y a mieux à faire. Alors, il y a mieux à faire sur quel sujet? Ben, oui, sur le fait de la commercialiser et oui, sur le fait de la médiatiser. Pour la médiatiser, ben, y a des télés. Aujourd'hui, on a un diffuseur. Est-ce qu'il est à 100% de ce qu'il peut faire? Bah, moi, je parle pas avec eux, donc c'est pas moi qui négocie avec eux, et donc je n'ai aucune conscience de quelle est leur stratégie. Mais je pense que bah, on pourrait rendre le produit plus joli quand même, qu'il n'y a aujourd'hui. On diffuse les matchs et on va se contenter un petit peu de cette diffusion. On va guère plus loin. Je pense qu'il y a moyen de mieux
De mieux le
valoriser le
vendre,
produit
ouais, bien sûr.
qui a été acheté et de fait de mieux rentabiliser l'investissement qui a été fait.
Et sur, bah concernant ces droits télé, je rebondis dessus. Je sais plus si je me, je sais pas si je me trompe, mais vous aviez dit que les droits TV, parfois, ils n'étaient pas à la bonne valeur ou qu'ils ne servaient pas forcément ceux qu'on avait actuellement. Mais vous, que proposiez-vous à la place ou comment pourrait-on faire mieux pour avoir peut-être plus de droits télé, que comment on pourrait mieux vendre encore ce produit?
Là, je suis pas spécialiste des médias, donc honnêtement, je ne sais pas. Je sais que le paysage des médias a énormément changé, que quand antérieurement il y avait quelques chaînes, aujourd'hui, je sais pas combien il y en a, mais il y en a plus de 20, peut-être 50, j'en sais rien, mais il y a énormément de canaux, donc tout ça fait que ça se dilue aussi un petit peu, et les télés sont peut-être moins enclins aujourd'hui à acheter l'intégralité d'un championnat. Donc peut-être aussi qu'il faut scinder notre offre, peut-être qu'il faut la rendre plus événementielle, peut-être vendre des packs de quelques matchs et ainsi de suite qui pourraient être pris par les télés. Peut-être que dans ce modèle-là, tout le monde ne passerait pas à la télé, mais si ça rend l'intégralité du produit plus joli et que tous les clubs en tirent un profit économique, bah, c'est pas plus, peut-être que ça n'est pas plus mal, mais je dis tout ça sous forme de supputation parce que je vous redis, je suis pas un spécialiste média et j'ai jamais eu à négocier avec les médias, donc j'en connais pas les difficultés. Quand je regarde par contre ce qu'a fait Canal+ avec le rugby, ils ont acheté un produit qui était pas extraordinaire, le championnat de rugby au moment où ils l'achètent, hein, et quand je vois ce qu'ils en ont fait,
C'est fort, c'est très fort.
je me dis qu'il y a eu un vrai travail du média qui a pris une compétition et qui a valorisé la compétition qu'elle avait achetée. Et aujourd'hui, je pense que et les clubs de rugby et Canal s'y retrouvent dans cette démarche. Donc, ça peut peut-être être une piste. Maintenant, voilà, je reste avec de l'humilité et mes propos ne sont que des supputations ou, si on veut les prendre comme telles, des propositions, j'en sais pas plus, en fait.
C'est intéressant en tout cas. Kader, sur cette partie droit télé, on a fait le tour ou...
Moi, je suis plutôt d'accord et c'est des questions et c'est des sujets. Voilà, parce que moi également, j'ai fait des études en marketing, en communication et forcément, c'est un sport que j'aime tellement et je me dis qu'on peut faire tellement mieux et je n'ai pas forcément toutes les réponses et toutes les propositions à faire, mais j'imagine que la
Mais
LNH fait son maximum et elle fait tout son possible pour vendre un produit de la meilleure des façons. Mais je pense vraiment qu'on peut faire beaucoup mieux dans ce qu'on vend, dans l'expérience qu'on propose aux téléspectateurs, aux fans de hand. Et voilà, à mon échelle, c'est que mon avis, mais je pense qu'on peut s'améliorer nettement là-dessus.
non, puis c'est
je
clair que
le pense aussi.
l'exemple que vous
Et
avez donné, ouais, allez-y, pardon.
économiquement, il faut savoir que le bar à l'entrée de la salle rapporte plus d'argent que les droits télé à la fin de la saison.
C'est assez parlant.
Ah, mais c'est vraiment fou, hein. L'exemple, il est vraiment marquant et choquant. Mais je crois savoir que les droits de télé ne sont pas énormes, que les clubs n'ont pas un grand profit. C'est quand même une enveloppe à prendre, mais dans leur pourcentage, dans leur budget, je sais que c'est très faible, hein, comparé à d'autres sports comme le foot, le rugby, où les droits télé font vraiment, vraiment du bien au club.
Oui, puis comme, enfin, je trouve qu'effectivement, Canal a su. Alors, moi, j'adorais le top 14, c'était à une époque où c'était un peu plus du rugby de clocher, mais Canal a fait un super travail, et je vais pas dire à dépoussiérer, parce que c'est peut-être un peu péjoratif, mais a été capable de transformer l'image du top 14, qui n'a pas perdu tout son ADN, parce qu'on garde des valeurs du rugby qui, enfin, moi, qui me parlent toujours, mais. Enfin, financièrement, ça a explosé et donc forcément, ça donne envie parce qu'initialement, ils n'avaient pas une énorme avance sur nous, quoi. Donc, c'est assez parlant. Moi, j'avais une question, je voulais rebondir sur un de vos propos, président. Vous avez dit que quand vous étiez en étant président de club, vous arriviez un peu à savoir quand est-ce que vous travailliez bien. Enfin, vous aviez peut-être des éléments qui vous permettaient de le savoir. C'est quoi. Les éléments qui vous font dire que, qu'en tant que président, vous travaillez bien, je suppose peut-être quand vous gagnez des titres, mais on n'en gagne pas non plus toutes les saisons. Et qu'est-ce qui vous fait dire, ok, je suis sur la bonne voie, enfin le club est sur la bonne voie, même si bah, peut-être sur le terrain, ça ne suit pas forcément toujours.
Il y a plein, enfin, y a plein de composantes. Bien évidemment, il y a la composante sportive qui est la plus simple à évaluer parce que celle-là donne lieu à un classement. Et puis, il y a des matchs gagnés ou des matchs perdus. Donc, cette composante, elle est très simple à évaluer. Et en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, en général, qu'on essaye d'être, enfin, objectif qu'on veut réaliste à chaque fois, mais soit on l'atteint, soit on ne l'a pas atteint. Donc ça, c'est très simple à juger. Après, il y a des objectifs économiques, il y a des objectifs de remplissage de salles. Et bien évidemment, quand, comme cette année, par exemple, un seul match ne s'est pas joué à guichet fermé, eh ben, d'analyse de la rentabilité de la salle aussi, parce que il faut de l'argent pour faire fonctionner un club et pour
Eh
le
oui.
développer. Donc, bah, voilà, il y a cette analyse de la rentabilité de la salle. Non seulement on la remplit, mais le panier moyen, il est de combien? Voilà, chaque spectateur en moyenne a dépensé combien? Est-ce qu'on arrive à faire progresser ce panier moyen? Est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est tout ça. Et puis après, des objectifs de communication qui sont un peu plus difficiles à
À
estimer.
évaluer.
Parce que là, c'est un peu moins palpable, mais néanmoins, voilà, les réseaux sociaux, ils ont aussi leur petit compteur d'abonnés. On sait aussi combien de gens viennent sur les pages et ainsi de suite. Et tout ça, bah, nous permet de dire, bah, on s'est développé, on s'est pas développé, on a bien progressé, mieux dans ce domaine que dans celui-ci, et ainsi de suite. Et tout ce petit travail d'analyse permet de dire, oui, on a bien bossé. Ou non, on n'a pas bien travaillé, mais au-delà du fait de se satisfaire ou de s'auto-satisfaire, l'idée c'est de développer enfin, c'est de trouver des pistes de développement à travers nombre de comment dire, d'analyses et d'indices en fait.
Ah, pour rebondir dessus, président, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça fait maintenant plusieurs saisons que le H joue quasiment 99% de ses matchs à guichet fermé. Chaque année, on a la Halle XXL avec une semaine extraordinaire, avec une salle à 10, 12 000 personnes par match. Vous commencez à gagner beaucoup de titres. Le club ne fait que progresser. Aujourd'hui, quels sont pour vous les axes un peu pour continuer à faire grandir le H?
Ben, c'est d'aller dans ceux qu'on n'a pas explorés. Il y a peu de temps, on a considéré que le volet merchandising du HBC Nantes n'était pas très développé. On a regardé ce qui se faisait dans les autres sports, qu'est-ce que ça représentait en termes d'échelle par rapport à leur budget. Et puis, avec une formule assez mathématique, on a déterminé, par rapport au modèle économique et à l'économie de notre sport, bah, ce que nous, on devrait pouvoir en ressortir. Voilà, le rugby aujourd'hui, allez, 6 fois plus que le handball. Bah, on divise leur chiffre de merchandising par 6 et on se dit, ça devient notre objectif à atteindre. Et partant de là, on s'est mis à travailler. Partant de là, on s'est accoquiné, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, avec Nike pour avoir un produit qui a de la valeur, pour associer notre marque à la plus grande marque mondiale d'équipementier. On est d'ailleurs très fiers qu'ils nous aient choisi pour être le premier club de sport, enfin le premier club de handball non omnisport à porter leur marque. Donc, on est très fiers de ça, mais nous, ce qu'on voyait à travers ça, bien évidemment, c'était de l'association de marques. Après, on a aussi voilà, la confiance de la métropole de Nantes pour assurer la gestion de la salle. Donc, on a un espace et maintenant, demain, le chantier, c'est de potentialiser l'économie de cet espace en allant développer nombre de choses et d'événements hors handball, en fait. Des séminaires, d'autres spectacles sportifs. Il y avait les Harlem qui sont venus il n'y a pas longtemps. On avait organisé des combats avec Tony
De
Yoka. On a
boxe,
fait du
ouais.
cirque. Voilà. Et l'idée, c'est de continuer à développer tout ça parce que on est persuadé qu'il y a aussi une économie à aller chercher dans ce domaine-là.
Et concernant la salle, vous n'êtes pas un peu à l'étroit aujourd'hui, président? Il n'y a pas, y aurait pas peut-être un projet un jour, une future salle, une future arène à Nantes, ou pour vous, ce modèle et cette salle à Beaulieu devant peut-être 6 000 personnes, ça vous va? Ou je sens que parfois, vous aimeriez peut-être un peu pousser les murs et avoir encore une salle un peu plus grande. Parce que je pense que vous la remplisseriez, pas
Là.
facilement, mais...
Alors, le match contre Paris s'est rempli en 8 minutes.
Ah, c'est
Donc,
incroyable, hein,
moi,
c'est
j'ai
vraiment
des gens
fort.
qui bossent à temps plein sur la billetterie. Alors, ils avaient travaillé en amont, hein, parce que pour que ça se remplisse en 8 minutes, il faut avoir quand même fait beaucoup de travail en amont. Mais si on veut rester dans le domaine de l'humour, on va dire que moi, je l'ai payé à temps plein et que la salle s'est remplie en 8 minutes. Donc, je pense qu'il y a encore moyen de
Il y a
les
encore
faire
moyen de gratter un peu d'argent.
Travailler un petit peu plus sur le sujet et que si on avait une plus grande salle, bien évidemment, ils auraient le loisir de travailler encore plus et de développer encore plus de stratégies pour la remplir. Maintenant, on sait aussi que construire une salle, c'est très onéreux, que les collectivités en construisent pas beaucoup et que c'est pas vraiment dans l'air du temps. Et je ne pense pas que ça soit dans l'air du temps à Nantes que d'envisager la construction d'une grande salle. D'autant qu'ils avaient fait le choix de rénover, de renouveler la H Arena. Donc, sur le domaine sportif, ils ont investi beaucoup ces derniers temps. Donc, ils ne construiront pas de salle à court terme. Je pense que je ne verrai pas de nouvelles salles pour le HBC Nantes en tant que président. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses à faire. On va effectivement une fois l'an à la XXL. Peut-être qu'il y a des modèles à trouver pour pouvoir y aller peut-être un petit peu plus souvent, et auquel cas, si on y arrivait, bah voilà, on aurait entre guillemets notre grande salle événementielle, et à nous de faire en sorte que ça soit le plus souvent événementiel. Mais c'est un peu la démarche qu'on a avec la métropole qui est totalement ouverte à l'échange sur le sujet. Maintenant, faut aussi trouver le modèle économique qui le permette.
J'ai une question là, on emploie, enfin je vois qu'on est vraiment, vous êtes vraiment un vrai chef d'entreprise, et c'est assez impressionnant, assez intéressant. Du coup, en tant que président de club, il faut gérer le recrutement des joueurs, mais il faut aussi gérer du coup le recrutement de tout ce personnel, de toutes ces personnes qui travaillent pour développer la marque du H, pour développer le club. Comment ça se passe? C'est des gens que, enfin, vous les trouvez où, ces personnes-là? Parce que c'est bien, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de bonnes idées. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans le business, c'était bien d'avoir des idées, mais c'était juste un multiplicateur. Après, il fallait être très bon dans l'exécution. Donc, comment vous faites pour trouver les gens qui sont très bons dans l'exécution?
Je pense qu'il est bien bien entouré, effectivement.
Alors, le HBC Nantes aujourd'hui, c'est 15 salariés et 11 métiers si on enlève le sportif. Et ce qu'il y a autour du sportif, je pense au kiné notamment ou au préparateur physique. Donc, si on enlève les métiers liés au sport, c'est 15 personnes à temps plein et 11 métiers différents.
Ce qui n'existe nulle part en France, je pense, dans les clubs. Si je me trompe pas, il n'y a aucun club qui a autant de gens qui bossent dans l'organisation d'un club.
Après, si on veut durer sur la scène, je pense qu'il faut bien travailler. Ça c'est une banalité que de le dire, mais il faut aussi mieux travailler d'année en année
Oui, c'est ça.
et développer tous les différents secteurs qu'on peut exploiter. Et pour ce faire, il faut des compétences. Il faut des compétences et il faut créer des métiers et créer des emplois dans les domaines où on a besoin de compétences. On ne peut pas faire le travail par un stagiaire. Le stagiaire, on en a, mais ils viennent apprendre, ils viennent pas pour faire. Et aujourd'hui, nous, on a des gens qui sont là pour faire. Comment on les trouve? Bah après, comme toute boîte, hein, soit c'est du relationnel, et on aime bien ce fonctionnement de relationnel parce que l'humain est important et que les diplômes ne sont qu'une présomption de compétence. J'ai toujours eu ce regard sur les diplômes, mais que l'humain est vraiment au cœur de la. Bah, du rendement. Et il faut trouver bah, quelqu'un qui va s'allier avec l'équipe en place. Après, bah, c'est comme dans toute boîte, hein. Il y a aussi des entretiens, des tests et ainsi de suite pour recruter les bonnes personnes.
Tu vois,
Intéressant,
Tristan,
ouais.
c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de Montpellier, un peu de ma déception, où voilà, Montpellier, c'est le club historique du championnat français. Et moi, je trouve que Montpellier a énormément investi, mais beaucoup sur le côté sportif, dans la construction de son club depuis tant d'années. Certes, ça lui a rapporté beaucoup de titres, mais sur le côté développement du club, je trouve que là-dessus, ils ont pas autant bien bossé que Nantes est en train de le faire. Et je trouve que la stratégie adoptée par le H, elle est maligne, elle est intelligente, et le club se
Ouais.
construit pas uniquement par le sportif, le recrutement, les bons joueurs, les gros salaires. Et c'est ce qui se fait autour, la vie d'un club, le développement, l'engouement, le marketing, etc. Nantes a basculé sur le. Moi, je trouve le bon côté, et c'est ce qui me déçoit un peu avec Montpellier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure.
Ouais, mais enfin, moi, je suis d'accord que Nantes travaille, mais le président Pelletier parlait de la ferveur populaire. Montpellier est une ville de sport, mais je sais pas si on est une ville
Nantes
sportive.
aussi, hein.
Non,
Attention.
non, mais je veux dire, tu vas à la Beaujoire, il y a une vraie ambiance. Et nous, à Montpellier, on a plein de sports, on a le foot, etc. Mais on est une ville peut-être un peu plus étudiante et il n'y a pas. Enfin, je trouve que la ferveur populaire qu'il y a à Nantes, je la retrouve pas forcément chez moi. Et c'est quelque chose que j'admire. Et j'admire d'autant plus que le H a été capable de capitaliser là-dessus. Mais tu vois, je veux dire, tu vas à la Mosson en foot, c'est vide. Et pourtant, Montpellier et Nantes, on a sensiblement à peu près au même endroit du classement en Ligue 1, sauf que eh bien, Nantes, c'est rempli, il y a des tifos, etc. Et c'est la
Ouais,
même
c'est un
chose un
club
peu au foot,
historique,
quoi.
hein, le FC Nantes.
Mais je te permets pas de dire que Montpellier n'est pas un club historique de foot. Bon, on s'égare un peu.
C'est qu'une opinion personnelle, mais c'était voilà, le côté un peu déçu de l'avancement et de voir comment Montpellier avance. Certes, sur le côté sportif, il n'y a pas de souci. Ce qui a été construit autour de Patrice Canaillet, ce qu'il a réussi à en faire une entité sportive, un club d'excellence, mais sur l'autre partie, je trouve que Nantes est bien en avance aujourd'hui.
Ah, c'est peut-être pas fini, peut-être que Montpellier, je trouve que, puis j'avais parlé une fois, j'avais interviewé Roque Feliot qui avait dit que vous étiez beaucoup inspiré de Montpellier. Peut-être que, on va rentrer dans une décennie où Montpellier va pouvoir s'inspirer de Nantes. Enfin, en tout cas, je l'espère, puisqu'on va continuer à se tirer la bourre, quoi.
Ben oui, c'est à souhaiter. D'abord, c'est à souhaiter qu'il y ait le plus de concurrence possible dans le championnat, parce
C'est
que
sûr.
c'est aussi ce qui lui donne de l'intérêt. On le regrette avec certains championnats d'autres championnats européens. Donc ça, nous, on a envie que ça continue. On a envie qu'on soit plus dans un modèle du championnat allemand où il y a plein de grandes équipes. S'il y a des choses à prendre au HBC Nantes, bah c'est plutôt flatteur pour nous. De la même manière que nous, on a su en prendre dans d'autres clubs, on cite Montpellier, mais on peut aussi citer Chambéry, qui est un très bel exemple aussi de structuration, et qui a fait beaucoup de choses, et qui était précurseur en bien des domaines, et encore pas si récemment avec enfin, plutôt récemment avec leur académie, et même avant, quand ils avaient construit le phare, enfin, il y a plein de choses à prendre dans plein de clubs. Et si les gens peuvent en prendre un petit peu au HBC Nantes, bah, qu'ils ne s'en privent pas, c'est toujours flatteur quand les gens vont s'inspirer de modèles. Donc,
Et vous, vos modèles, président, excepté les clubs de hand, peut-être, vous avez d'autres disciplines ou d'autres clubs autour de vous? Est-ce que vous allez souvent passer des semaines dans un club de rugby, un club de volley, un club de foot? Est-ce que vous inspirez, je pense, aussi à côté, ou si vous avez des modèles un peu en termes de développement?
Alors j'aimerais bien avoir cette capacité à aller m'inspirer de ce qui se fait dans d'autres sports. Il faut juste savoir que j'ai un vrai métier à côté, que je
Ouais.
suis bénévole au HBC Nantes et qu'il me faut l'exercer. Donc j'en ai pas le loisir, non. Mais après, oui, j'aime le sport et oui, je regarde ce qui se fait. Et maintenant que je suis président, même si ça commence à faire un petit moment, mais j'ai un regard toujours un petit peu sur les coulisses, voire essayer d'attraper la bonne idée en disant ça on peut le dupliquer chez nous et ainsi de suite. J'ai pas vraiment de clubs qui me font dire c'est ça qu'il faut qu'on fasse, mais dans tous les clubs il y a un petit truc à prendre par quoi.
C'est sûr.
Et je suis plutôt à essayer de regarder le petit truc à prendre, voilà. Dunkerque a aussi été un club qui a été inspirant quand nous on était quand on accédait à la première division. Voilà, à l'époque avec Nicolas Bernard, Régis Gianta, on regardait comment ils faisaient, comment ils avaient progressé, comment ils restaient aussi au niveau. Donc voilà, ils avaient aussi des valeurs où on disait bah c'est bien qu'un club ait ce type de valeurs et qu'on les mette en exergue et qu'on essaye que nos joueurs soient dans ces démarches. Donc il y a plein de petites choses dans plein de domaines qui sont à prendre à droite et à gauche, et puis aussi des fois des trucs où on se dit bah justement ça c'est le contre-exemple de ce qu'il faut pas faire et qu'on soit vigilant à ne pas faire ça parce que ça arrive aussi qu'on voit des choses qui nous plaisent pas trop dans les manières de faire. Je citerai
Parallèle,
personne.
ouais, c'est ça. Si on fait un parallèle avec le. Enfin, je sais pas, j'ai ça souvent qui me vient en tête quand j'observe un peu plus économiquement le club français de handball. Un parallèle avec le Stade français de Max Guasini dans la manière d'innover. Enfin, je trouve que le H a ce côté un peu innovant. Il est pertinent ce parallèle ou enfin, pour vous, ça a pu être un modèle
Ah,
ou c'est.
c'est d'autres dimensions économiques avec d'autres moyens. Eux,
Oui, bien sûr, bien sûr.
ils ont la capacité à avoir une idée et à la financer. Nous, il faut qu'on la construise souvent. Donc, ça va nécessiter plus de temps. On ne peut pas événementialiser comme eux le font. On aimerait bien, hein, mais il y a toujours une composante économique sur laquelle il nous faut être très vigilants parce que même si on se développe dans tous les domaines et on n'en mettra pas un, on n'en laissera pas un de côté au profit d'un autre. Néanmoins, il faut aussi qu'on améliore notre équipe et que le sportif profite aussi du développement. Donc, à chaque fois, certes, il y a une petite quote-part qui est pas fixée par un dogme, mais il y a toujours une petite quote-part qui va au non-sportif et une grosse part qui va au sportif. Le sportif, même si ça n'est que la vitrine, et je l'ai toujours considéré comme ça, bah, il faut que la vitrine soit belle, et il faut qu'il avance, il faut qu'il grandisse.
Ouais, faut qu'elle brille, quoi.
Mais je suis d'accord, hein, Tristan, c'est sans le comparer à, je sais pas, au Stade français, etc. Mais je trouve que c'est vraiment un club innovant. De temps en temps, je l'avais notifié sur des tweets, etc. Mais ce soir, le H joue un match de Coupe d'Europe à Berlin, et je crois qu'à la H Arena, vous attendez quand même plus de 500 fans, 500 supporters qui vont regarder le match dans votre salon VIP. Il y a toujours des bonnes idées, il y a des choses, c'est à la recherche de. Voilà, c'est à la recherche de plein de petites choses qui font avancer le club, le groupe de supporters, les tifos, la boutique. Il y a une vraie histoire, il y a toujours. Dans les coulisses, je pense qu'il y a un vrai travail de fond qui est fait, un gros travail de fond qui est fait, pour toujours essayer de s'améliorer, d'avancer, et pas de rester sur OK, on a 6 000 personnes, la salle elle est pleine, on gagne un titre tous les 2 ans. Je pense qu'il y a quand même un gros boulot qui est fait pour continuer à faire avancer le H.
On veut que le club soit un lieu de vie. Donc, pour que ça soit un lieu de vie, il faut donner la possibilité aux gens d'y venir. Alors, la retransmission du match contre Berlin, c'est une occasion de créer du lien entre les gens et de les faire participer au-delà du fait de venir voir l'équipe sur le terrain. Donc, voilà, on a cette salle, on veut qu'elle soit un lieu de vie, donc il faut y amener les gens avec le plus de régularité possible, y compris si l'équipe, elle y joue pas physiquement. Donc, ça fait partie des stratégies, oui.
Bon, Kader, je suis désolé, mais là, je trouve que déjà, tu as dit du mal de Montpellier. On dit beaucoup trop de bien de Nantes. Et surtout, président, en introduction, vous m'avez parlé de patience et vous avez parlé, enfin, vous avez expliqué que c'était aussi les échecs qui forgeaient la patience. Donc là, on a parlé de tous vos succès. Moi, je serais curieux aussi, en tant que jeune entrepreneur, de connaître un peu quels sont les échecs qui vous ont marqué, ceux qui ont peut-être failli vous faire, je sais pas s'il y en a qui ont failli vous faire arrêter, et ceux qui, enfin, qu'aujourd'hui vous percevez comme des échecs qui ont été fondateurs, parce que certes, il y a des victoires fondatrices, mais il y a aussi des échecs fondateurs. Voilà, je sais pas, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de ces aspects-là, parce que tout brille, mais je suppose que ça n'a pas toujours été facile, quoi.
Alors non, loin s'en faut. Alors me faire arrêter, non. Il y a un moment, je me suis demandé si j'étais la bonne personne pour continuer à faire progresser le club, mais me faire arrêter, non. Après, je suis un peu têtu, donc sur le sujet, un échec ne fait que en règle générale me motiver deux fois plus pour réussir la fois d'après, mais après, enfin, il faut être patient, oui, parce que nous, c'est vraiment une histoire. Alors, je vais vous la faire courte, on reprend avec deux copains. Alors, moi, je suis au HBC Nantes depuis 1976, quand même. J'y ai
Oui.
été joueur. Et vous avez évoqué le fait que j'avais quitté les terrains, mais c'est pas là que j'ai laissé un souvenir le plus mémorable non plus.
Ah ouais.
Faut aussi être réaliste.
Vous avez des vidéos, on
Voilà.
prend.
Mais, voilà, j'étais un petit joueur du HBC Nantes qui jouait au niveau de son équipe première et c'était pas avec un niveau qui était pas très élevé et on faisait N3-N2, N2-N3 et on avait une petite répétition de cycle comme ça qui était un petit peu énervante. Et avec deux copains, on s'est dit, bah, on va reprendre le club pour essayer de faire autre chose, quoi. Donc on s'est présenté, on a gagné les élections dans cette idée-là et on a voulu construire le projet du club. Alors, celui qui avait pris la présidence, Jean-Paul Alléouze, à l'époque, a dit, bah, dans 10 ans, on sera en première division. Alors, on lui a tapé sur l'épaule en disant, t'es mignon, mais peut-être qu'on va se calmer un petit peu. Mais lui, il est également très têtu et il insistait
Était
sur son
visionnaire.
schéma, dans 10 ans, on sera en première division. Bon, avec mon autre pote Claude Poulmar, qui est devenu président après Jean-Paul et avant moi, on s'est dit, bon, c'est une démarche structurante. En gros, ça veut dire on s'arrête pas à une réussite. Donc on est parti dans ce schéma-là et on est parti aussi en se disant, un club, qu'est-ce que c'est? Un club, c'est de l'adhésion populaire, on en a parlé, parce qu'on a considéré qu'à part se regarder le nombril, s'il n'y a personne dans la salle, on n'a pas d'intérêt, quoi. Et après, on a dit que c'était une implication sur le territoire, et cette implication, on l'a matérialisée par beaucoup d'actions dans les quartiers. C'était de la formation, avec l'idée de dire on va amener les enfants à leur plus haut niveau de compétence, pas forcément au meilleur niveau, mais à leur plus haut niveau de compétence, à savoir que on forme les jeunes à être le meilleur possible, mais on n'exclut personne. Et on n'est pas performance, quoi. Et surtout au niveau qui était le nôtre à l'époque, ça aurait été très prétentieux que d'avoir cette démarche-là. Et puis après, on s'est dit, bah, il faut une équipe première qui entraîne tout ça, parce que pour faire ça, il faut aussi de la performance. Mais tout en se disant que cette équipe première, elle avait, c'était, on l'a évoqué, on a dit le mot, c'était la vitrine. Mais qu'elle n'avait de sens que si le magasin était bien achalandé, quoi. Et quand on est arrivé en première division, ben on s'est remis, alors donc il m'a été donné la présidence, et on s'est remis autour de la table en disant, bon, allez, ça y est, les gars, on a réussi, c'est quoi maintenant un club de haut niveau? Et assez vite, on s'est dit, bah, en fait, c'est la même chose, mais c'est plus compliqué, notamment pour ne pas perdre les valeurs qui sont toutes celles qui sont autre que la performance.
La famille, quoi.
Et voilà, et aujourd'hui, on continue à développer ce modèle. Alors certes, on a scindé les activités, il y a le volet performance, le volet associatif, mais on l'avait déjà fait un petit peu dès la D2 pour ne pas perdre, entre guillemets, les énergies sur l'autre volet, parce qu'on sait très bien que la performance, elle entraîne les gens, et que assez facilement, on pourrait délaisser l'autre partie. Donc on avait coupé les activités, mais pas dans une volonté de dire non, mais nous on fait la performance et vous, vous faites le reste. Dans une volonté de dire il faut qu'il y ait des gens pour bosser sur chacun des secteurs. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on s'est construit et qu'on a grandi. Mais c'est une longue histoire faite de réussite, de défaites. On est resté 5 ans en N1. Donc ça n'a pas été facile, ça n'a pas été, ça n'a pas été, ça n'a pas été simple. Il a fallu apprendre des échecs et ainsi de suite à chaque fois. Mais les niveaux intermédiaires restent les niveaux les plus compliqués parce que
Ah oui.
on est aussi dans des semi-professionnalismes et c'est pas qu'on, c'est difficile.
Non, mais c'est vrai que c'est précieux de recadrer un peu le. C'est vrai que nous, on a tendance à dire, ouais, depuis 2008, et c'est vrai que c'est impressionnant, juste de pas. Si on place le curseur initial en 2008, c'est déjà impressionnant, mais c'est vrai que avec toute l'histoire qu'il y a derrière, bah, on voit qu'il y a la face immergée de l'iceberg aussi, quoi. Donc merci pour l'histoire.
Mais en vrai, ce qui nous a fait progresser, c'est qu'on s'est rendu, à chaque fois qu'on arrivait à gratter un petit truc, on se disait que enfin, on regardait juste l'étape d'après, en fait. Même s'il y a eu cette phrase qui disait, qui était visionnaire, effectivement, parce qu'il nous a fallu 10 ans pour monter en N1, et ça c'est assez drôle, mais en fait, c'est juste construire, en fait. Et on est toujours dans cette démarche de construire parce que, on sait que, et c'est la vie de tout club sportif, il y aura des moments de moins bien. Mais qu'est-ce qu'on a construit pour amortir ce moment de moins bien?
Ah, on a affaire à un vrai bâtisseur.
Et justement, les moments de moins bien, vous avez une ou deux anecdotes comme ça?
Des moments de moins bien.
Vous voyez, j'insiste, mais ça c'est mon côté montpelliérain, ça. Je veux savoir qu'à Nantes vous soufflez aussi.
Bah, on a eu une saison où c'était compliqué, oui. On a eu une saison où c'était bien compliqué, Roch s'en rappelle, parce qu'ils étaient convoqués à 7 h le matin dans les vestiaires. Et oui, c'était très compliqué, ça doit être la saison 15-16, mais qui finalement se finit bien. Mais on avait été chercher deux ou trois jokers dans la saison. En janvier, mais aussi parce que on a créé aussi une économie qui nous permet de faire face à ça, face à des blessures, face à une erreur de casting et à rééquilibrer l'équipe si besoin est en cours d'exercice. Et c'est en ce sens où je m'applique à constituer des fonds propres de manière à ce que, bah, on garde notre compétitivité, même si peut-être on s'était trompé dans le recrutement ou qu'on a eu de la malchance avec des bobos.
Ok, super intéressant. Kader, t'avais encore t'as d'autres questions qui viennent? Sinon là on est à peu près autour d'une heure d'enregistrement.
Non, mais j'avais juste deux, trois questions, on va dire un peu annexes, un peu que j'avais envie de poser au président. Si vous avez eu un joueur président que vous avez toujours rêvé de signer, mais que vous n'avez pas pu le faire.
Ouais, il y en a plein avec qui on a eu des, enfin pas plein, mais il y en a avec qui on a eu des histoires qui ont toujours été en parallèle. On aurait bien signé ensemble. Je pense qu'ils seraient bienvenus au HBC Nantes. On aurait bien, et nous, on les aurait accueillis avec plaisir. Mais ça
On veut
tombait
des
jamais
noms.
bien. Bah, Yann Gentil, par exemple.
D'accord.
Yann Gentil. Et quand je dis que c'est une histoire vraiment en parallèle, parce que, le jouait en N2, il était en région parisienne. On le jouait en N1, il était à Billère ou à Montpellier, je ne me rappelle plus trop. Billère peut-être en N1. Après Aurillac, non pas Montpellier, j'ai dit Montpellier.
Aurillac, il a joué
Aurillac.
Aurillac, ouais.
Après Chambé, enfin même il est passé par Cesson aussi. Mais à chaque fois, voilà, on avait des histoires parallèles. À chaque fois, d'ailleurs, il était assez bon contre nous. Il nous a fait souffrir plus d'une fois. Mais c'est jamais bien tombé. Mais je pense qu'il y aurait eu une volonté commune de travailler ensemble.
Autre question, mais il a le droit encore de dire Joker, hein. Je vais évoquer un nom d'un joueur qui a déjà participé au parcours du H et voilà, en tant que supporter et fervent suiveur de la LNH, Nicolas Tourna. Un retour
Oui.
possible, président, un jour peut-être, une envie peut-être de vous, du joueur, une envie réciproque. Voilà.
Bah, l'envie, oui, forcément. Déjà, ça a été avec tristesse qu'on l'a vu partir, mais
Ouais,
après,
j'imagine.
il faut aussi remettre les éléments dans le contexte. Nous, on n'avait jamais joué la Ligue des Champions quand il fait le choix d'aller à Kielce,
Qui sait?
qui sortait alors soit d'une finale, soit de l'avoir gagné. Il a une proposition financière qui était peut-être le double de ce qu'il gagnait au
Ouais,
HBC
j'imagine.
Nantes. Et la possibilité de rejoindre un des top clubs européens à l'époque. Donc voilà, on pouvait pas lutter. Il serait resté, ça lui aurait évité de perdre en demi-finale de la Champions League avec son club de Kielce contre le HBC Nantes, mais il a fait le choix de partir. Maintenant, non, Nico, bien évidemment que c'est quelqu'un avec qui on recollaborerait avec plaisir. Déjà parce que c'est un grand sportif, et puis dans un second temps parce que c'est une belle personne et avec qui voilà on a toujours aimé
Belle
travailler.
histoire.
C'est un bon gars. Après, est-ce que les planètes s'aligneront pour que ça soit possible? Ben, je l'espère, mais on verra, on verra. Il est en... Mais non, mais il est à Kielce jusqu'en 27, je crois. Oui,
Oui, après
mais
ça, tout est possible, hein.
ouais. Après, des fois, oui, il y a des choses qu'on pensait pas possibles et qui sont possibles, hein. Voilà, Valero était revenu de Barcelone. Il y a des choses possibles. Je pense que Nico aimerait aussi pouvoir revenir au HBC Nantes. Je crois
Je
qu'on est
pense.
resté. On est resté dans un coin de sa tête. Et en plus, on a quelques petits résultats qui feraient qu'il retourne pas dans un club trop bas. Voilà. Et puis, ça lui permettrait de battre Kielce avec nous.
Et ma dernière question, président, quel serait votre rêve le plus fou avec le HBC Nantes? Si vous deviez en sortir un seul.
Un seul. Bah, le plus réaliste à court terme, ça serait de gagner l'European League. À moyen terme, ça serait de gagner le championnat. Voilà. Après, la Ligue des Champions, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais on. Et là,
Vous étiez pas loin, 2018, hein, vous étiez pas si loin.
chapeau à Montpellier.
Oh, on comprend plus qu'Adair, hein, là, quoi.
Mais gagner effectivement la Champions League, bon, on voit que c'est pas non plus complètement utopique. On n'en a pas été si loin que ça.
Si loin, ouais.
Après, cette année-là, il faut être honnête, Montpellier était plus fort que nous et Montpellier avait fait une meilleure saison que nous. Donc c'était assez logique que ça soit eux qui la remportaient, pas nous. Mais bon, voilà, on peut y rêver. On peut y rêver. Mais ça c'est le plus fou des fous. Mais déjà l'European League cette année, voilà, sous réserve de pas prendre la foudre contre Berlin.
Bon, ce qu'on vous souhaite.
Si.
À chaque épisode, Gaël, il y a Inspecteur Kader qui se débrouille pour faire une petite surprise à notre invité avec un petit message. Et donc là, on a un petit
Ouais.
message à vous faire passer. Je vais vous faire
D'accord.
écouter.
Été créé, tu vois, pour passer un peu à autre chose. Et pour parler surtout, j'ai parlé un peu de moi et de ma relation avec le H, mais quand tu vois l'évolution du club et ce qu'il est aujourd'hui capable de faire, voilà, c'est clairement un des tout meilleurs clubs d'Europe qui demande qu'à aller de plus en plus haut. Et ça, je pense que le club doit en grande partie cette évolution à son président, parce qu'en fait, il a pris des décisions qui étaient contestables et contestées par un grand nombre tout au long de sa présidence, et souvent en fait il s'est avéré que c'était des bons choix. Et donc c'est en ça où tu vois que il y a une vision HBC Nantes. Je pense qu'il est aussi très bien entouré, mais voilà, moi je suis très fier d'être passé par là. Je suis très fier d'avoir d'excellentes relations toujours avec monsieur le président, avec Gaël, et voilà, ça c'est vraiment une grande fierté pour moi en tant qu'homme, en tant que joueur, je le répéterai jamais assez. Et aussi, ici, une petite histoire que je voudrais partager, c'est que un jour on gagne la coupe de, je crois que c'était le trophée des champions, si je dis pas de bêtises, donc il y a une euphorie dingue, la saison commence hyper bien, Et en fait, je crois qu'on avait des bouteilles de vin, et en fait, on boit du vin, et en fait, je renverse une bouteille de vin sur Nico Tournage, j'ai fait une espèce de douche au vin rouge. Donc, voilà, c'était un peu humiliant, en fait, mais c'était, voilà, on célébrait le truc, et en fait, Gaël, il a pas tardé à me notifier qu'il n'avait pas trop aimé, que voilà, je suis quelqu'un qui l'appréciait, mais que ce geste, il ne l'avait pas apprécié. Et j'en avais pas forcément conscience. Et c'est aussi pour ça que je dis que voilà, c'est un club qui m'a aussi permis d'évoluer en tant qu'homme, et pas que sur l'aspect joueur. Donc voilà, avoir accès à autant de partenaires d'entreprise, donc comme l'opportunité d'échanger avec eux tout au long de notre passage. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et j'en suis extrêmement, extrêmement fier et extrêmement reconnaissant.
Voilà, c'était un peu long, mais c'était un très très beau message. Kader, tu veux peut-être.
Déjà, si le président reconnaît la personne.
Bien évidemment, c'est Oli. C'est Oli,
Exactement.
Olivier Niokas. C'est très gentil. Alors après, il est plus jeune que moi, mais sa mémoire lui fait défaut quand même. D'abord, c'était pas au Trophée des Champions, c'était en finale de la Coupe de la Ligue, et c'était
Coupe
à
de la
Reims.
Ligue.
C'était à Reims. Et quand on est dans la ville du Champagne, on joue pas avec le vin rouge, on joue avec le champagne, pas avec le vin rouge. Et en plus, on n'avait pas gagné. Donc, il y avait double faute. Donc, c'était normal qu'à ce moment-là, il soit repris. C'était évident.
Bien sûr. On aurait pu avoir beaucoup de. Il y avait beaucoup de possibilités pour avoir des messages,
Mais ça a
président,
été un vrai plaisir de collaborer
Voilà.
avec Oli. C'est un grand sportif. Après, malheureusement, il avait des bobos, mais parce que c'est comme les Formule 1, c'est fragile tout ça.
Bien sûr.
Mais c'était un grand sportif. Il nous a amené à gagner la première Coupe de France de l'histoire du HBC Nantes contre Montpellier. J'en suis désolé, mais contre
C'est
Montpellier.
beau, c'est beau pour finir. C'est beau.
Et je me rappelle qu'il avait été très brillant, et que presque à lui tout seul, sans enlever le mérite au collectif, mais il nous avait bien, bien, bien aidé
Une grande
sur
finale,
ce premier, sur cette première Coupe de France gagnée.
Super. Bah écoutez, merci. On va finir avec nos deux questions traditionnelles. Sauf si Kader, tu veux en poser une petite
Non, non,
dernière.
non, je te laisse clôturer, Tristan.
Alors, à chaque épisode, on termine par deux questions, et une qui a pour moi encore plus de valeur avec vous. La première, c'est quel conseil vous donneriez, alors peut-être pas au Gaël Pelletier de 18 ans, mais peut-être quand justement vous avez repris le club là avec vos deux amis. Quel conseil aujourd'hui vous lui donneriez pour qu'il vive encore une plus belle aventure, et indirectement, du coup, quel conseil vous pourriez donner à, je sais pas, un jeune dirigeant de club,
Oh là, c'est compliqué, déjà
quoi.
parce que Gaël Pelletier, il a son petit caractère, et que c'est pas si facile que ça, que de lui faire entendre raison. Des fois, dans un second temps, il peut comprendre, parce qu'il n'est pas que sot, et que de temps en temps, il prend un peu de réflexion et il se dit, ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais non, après, si, un conseil que je pourrais donner, ça vient d'une anecdote familiale. C'est ma mère me disait souvent, tu sais, Gaël, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et moi, je lui répondais à chaque fois, ouais, mais c'est vrai, mais j'essaierai quand même aussi souvent que je le peux.
Belle
Et
anecdote.
c'est peut-être ça qu'il faut donner comme conseil aux gens. Essayez de, voilà, aussi souvent que vous pouvez, de faire ce que vous voulez, quoi. Parce que on n'a que peu de plaisir dans la fonction, dans la réalité, parce qu'on est les deux pieds dedans, et que forcément on est toujours à penser à demain, ou à penser même à l'immédiat qui peut générer des problèmes. Donc faut prendre du plaisir quand on peut en prendre, et faut le faire avec ses propres valeurs, sinon je pense que on se pervertit, quoi. Et voilà, c'est peut-être les seuls conseils que je pourrais donner. Après, chaque club a son histoire, chaque club a ses opportunités, et on n'a pas tous la même chance au départ, en fonction de tout ça. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est toujours une question un peu intéressée pour nous, pour la suite de notre petite aventure avec Kader. Est-ce que vous avez un invité à nous conseiller?
Est-ce que j'ai un invité à vous conseiller? Oh, bah, je pense que vous vous amuseriez bien avec Monsieur Thierry Anty. Ah. Avec qui ça a été un plaisir de collaborer pendant toutes ces années et qui a été un des acteurs très importants de la progression du HBC Nantes, même si la fin a été un petit peu plus compliquée parce que
Oui, mais bon.
c'est toujours compliqué de finir une belle histoire, mais ouais, je pense qu'il a plein de choses bien très intéressantes à vous raconter sur le handball, sur peut-être le HBC Nantes, sur plein de choses.
Oh, mais c'est bien noté. C'est vrai que ça pourrait être sympa. On n'a pas encore fait d'entraîneur. Oui, on n'a pas encore fait d'entraîneur. Donc
Non, mais ça ne saurait tarder.
ça sera l'occasion. Super. Cher président, c'est le moment pour nous de vous remercier. Kader, je te laisse peut-être dire quelques mots.
Non, je voulais juste remercier le président. Je sais que voilà, vous êtes à quelques heures d'un match important en Coupe d'Europe. Vous venez de fêter une belle victoire en Coupe de France. Et voilà, dans la vie privée, je sais que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez beaucoup de boulot. Donc vous vous exprimez peu dans la presse. Donc pour nous, c'était vraiment une chance de vous avoir. Je vous souhaite une bonne fin de saison, le meilleur pour la suite. Et voilà, de continuer à tirer le handball français vers le haut.
Ben, merci beaucoup et puis ben, merci à vous parce que le format de votre émission est intéressant. Il y a peu de médias où on peut parler comme ça dans la avec du temps pour aller développer des idées. Donc voilà, c'était sympathique à faire.
On en est ravis, vraiment merci parce que moi je me suis régalé. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez pris du plaisir à passer quand même une bonne heure avec Gaël Pelletier, qui est président du HBC Nantes. Ça vous a. Je vous demande juste un petit geste de la part de nos auditeurs, c'est d'aller nous mettre des bons avis, des bons commentaires, des 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast parce que ça nous permet de gagner en crédibilité, en visibilité, et ça nous permet d'avoir des invités exceptionnels comme ça parce que l'air de rien, petit à petit notre boule de neige grossit avec Kader je pense que si on m'avait dit il y a 3 mois que je pourrais discuter avec Gaël Pelletier, même si je suis supporter montpelliérain, j'aurais été un tout petit peu ému. Donc merci à vous de continuer à nous soutenir et encore un grand merci à vous Gaël de nous avoir accordé un petit peu de temps.
Eh bien, merci à vous. Et puis nous, on va relayer ça sur nos plateformes. Et si notre communauté peut apporter sa petite pierre à l'édifice, ça sera un grand plaisir.
Bah, vraiment
Très
merci, c'est
gentil.
génial. Kader, je te remercie encore pour notre belle aventure. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Suivez-nous parce qu'après notre petite pause avec Kader, on est bouillant et on vous réserve encore de belles surprises. Voilà, je vous embrasse et allez le H. Ah, mais ça me fait un peu mal. Allez le H pour ce soir et bonne fin de saison à Nantes. À bientôt et vive le hand.
À bientôt.
Merci.